Dans la pensée de Dieu, l'Église, c'est quelque chose d'unique, de très simple et d'extrêmement réjouissant et de bon pour l'homme. Mais dans la pensée des hommes, il en va généralement autrement. Parce que déjà, le mot « Église » désigne plusieurs choses. De quoi est-ce qu'on parle ? Souvent, l'Église semble être quelque chose de très compliqué. Et pour beaucoup de gens, l'Église n'est ni réjouissante, ni bonne pour les hommes. Cela tient au fait que, au fil du temps, le mot Église a pris une autre signification que celle qui est mentionnée dans la Bible et que, du coup, on ne parle pas toujours de la même chose. Par exemple, de nos jours, le mot Église peut désigner un bâtiment. Nous-mêmes, c'est ce qu'on dit. Voilà, nous, on vient à l'Église quand on parle de ce bâtiment. L'Église peut également être une institution religieuse avec son organisation, ses règles, où l'Église désigne parfois un clergé, c'est-à-dire certains chrétiens qui occupent une fonction particulière au sein de l'institution religieuse. Eh bien, dans la pensée de Dieu, l'Église, c'est autre chose que cela. Et ce qui vient encore compliquer les choses, mais surtout ce qui fait qu'aujourd'hui, tellement d'hommes et de femmes ne veulent pas entendre parler de l'Église, c'est qu'au cours de l'histoire, des personnes ont prétendu être l'Église ou bien agir au nom de l'Église et elles ont commis bien des horreurs, voire des atrocités et ont causé bien des souffrances qui font que, maintenant, de nombreuses personnes ne veulent pas ou ne veulent plus entendre parler de l'Église. L'Église, elles n'en veulent pas, et moi je les comprends parce qu'avant je pensais comme elles. Mais ce n'est pas parce que des personnes prétendent être l'Église ou bien prétendent agir au nom de l'Église que cela correspond forcément à ce que Dieu lui-même appelle Église. Qui mieux que Dieu peut nous dire ce qu'est véritablement l'Église ? Si jamais nous voulons nous faire une idée de ce qu'est l'Église dans le plan de Dieu, nous ne devons pas nous appuyer sur ce que les uns ou les autres disent, mais nous devons seulement nous appuyer sur la parole de Dieu. Cela signifie que ce soir, je ne vais pas tout à fait suivre le contenu de votre fascicule, car certaines affirmations qu'il contient ne se trouvent pas dans la Bible, mais ont été rajoutées par rapport à ce que la Bible enseigne. Et puis, à l'inverse, la Bible affirme un certain nombre de choses sur l'Église qui n'apparaissent pas dans le fascicule. Alors, ces différences s'expliquent par le fait que le parcours Alpha a été pensé et conçu pour pouvoir s'adapter à la majorité des églises chrétiennes. Alors ça, c'est une idée qui est vraiment formidable. Mais quand vous avez un tel projet, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il voit le jour ? Eh bien, vous invitez des gens qui représentent les principales institutions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, et toutes n'ont pas la même conception de ce qu'est l'Église. Et pour ce sujet particulier qui est l'Église, on discerne l'influence et l'histoire des uns ou des autres qui ont parfois rajouté leur touche personnelle à ce que la Bible enseigne, ou bien qui ont gommé certains aspects. Alors pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église, Dieu dans sa parole désigne l'Église de diverses manières. Eh bien, ce soir, nous en verrons cinq qui correspondent aux cinq points de votre fascicule. Tout d'abord, l'Église, c'est le peuple de Dieu. Le mot qui a donné « Église » est un mot grec que l'on trouve dans le Nouveau Testament, « Ecclésia ». Et « Ecclésia », ça veut dire un groupe, une assemblée, un rassemblement. Eh bien, l'Église, c'est le groupe des personnes qui forment le peuple de Dieu. Et le mot « Église » peut désigner l'ensemble du peuple de Dieu sur la terre. Là, on parle parfois d'Église universelle. Ou bien le mot « Église » peut désigner un groupe de chrétiens qui se rassemblent sur le plan géographique, en un lieu donné. Là, on parle plutôt d'Église locale. Bien, dans le Nouveau Testament, on trouve les deux. Dans tous les cas, L'Église est un groupe de personnes qui ont placé leur foi en Jésus et qui ont été sauvées par lui. Acte 2,47 nous dit, donc un certain nombre de références ne se trouvent pas dans vos fascicules, hein. Acte 2,47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ne suffit donc pas de fréquenter une église, ni même d'y être investi pour faire partie de ce que Dieu appelle son église. Parce que diverses motivations peuvent amener des gens à rejoindre une église. Ça peut être l'intérêt personnel, surtout à certaines époques. Ça peut être la peur de ce que les autres vont penser. Le regard de l'autre peut des fois conduire des personnes à aller à l'église. Ou ça peut être tout simplement la culture, l'habitude, ou bien la recherche d'un sens à la vie, et puis, heureusement, bien sûr, la foi personnelle en Jésus. Diverses motivations peuvent conduire les gens à aller à une église. Mais ce qui fait que Dieu lui-même nous rajoute à son église, c'est notre foi personnelle en Jésus. Il peut donc y avoir une différence entre l'Église telle que nous la voyons avec nos propres yeux et l'Église telle que Dieu la voit, parce que Dieu lui regarde au cœur. Des fois, on fait cette distinction entre l'Église visible et l'Église invisible. Voilà, l'Église invisible, c'est nous, voilà, on voit un rassemblement, il y a des personnes, ça c'est l'Église visible. Mais l'Église invisible, ça c'est celle que Dieu voit. Et Dieu sait quelles sont les personnes qu'il aime vraiment, qui lui appartiennent. Est-ce que toutes les personnes que nous voyons aller à l'église sont chrétiennes? Peut-être pas. Mais dans chacune des églises visibles, quelle que soit leur dénomination, il y a des personnes qui appartiennent à Jésus. Eh bien, ce sont ces personnes-là, et seulement elles, qui forment la véritable église. De quoi, de qui est formée l'église? Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Pierre. Alors si jamais vous avez une Bible blanche comme ça, c'est à la page 800. Première lettre de Pierre au chapitre 2. Un Pierre 2, et je lirai les versets 9 et 10. Oui, 1 Pierre 2, 9. Voilà. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. L'Église n'est pas composée de personnes parfaites qui auraient mérité d'en faire partie. Elle est au contraire exclusivement composée de personnes qui autrefois n'appartenaient pas au peuple de Dieu, mais qui maintenant en font partie. Et pourquoi cela? Parce qu'elles ont obtenu, notre passage nous dit, parce qu'elles ont obtenu compassion, parce qu'elles ont été rachetées pour Jésus. Pour chacun de nous, ça signifie que, quelle que soit notre vie et les erreurs que nous avons pu commettre, nous pouvons aujourd'hui nous approcher de Dieu par Jésus-Christ et même rejoindre son peuple au sein de l'Église. L'Église est un lieu de pardon, d'accueil et de compassion parce que tous ceux qui composent cette Église ont en eux-mêmes bénéficié de la part de Dieu. L'Église est également composée de prêtres royaux. Alors, nous, dans la vie, malheureusement, on fait parfois des distinctions de personnes. C'est souvent comme ça que la société fonctionne. On accorde plus d'importance à certaines personnes qu'à d'autres. Eh bien, pas dans l'Église de Dieu. Parce que tous, au sein de l'Église, bénéficient du même statut royal. Ils ont la même dignité, nous sommes tous enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes également tous devenus des prêtres. Alors, c'est quoi un prêtre dans la Bible ? Un prêtre, c'est celui qui avait reçu de Dieu la charge de lui apporter des sacrifices. Le prêtre avait également reçu de Dieu le droit de s'approcher de lui et il servait d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Eh bien, grâce au sacrifice de Jésus, tous ceux qui font partie de son Église sont maintenant des prêtres. Tous prêtres sans aucune distinction, homme ou femme. C'est-à-dire que dans l'Église, il n'y a plus besoin d'intermédiaire pour s'approcher de Dieu, mais que chacun a reçu de Dieu l'autorisation et l'invitation de s'approcher de lui librement. Parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père, plus personne ne peut prétendre jouer aujourd'hui ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Chacun de nous peut appeler Dieu Père. L'Église, telle que Dieu l'a voulu, c'est un rassemblement de personnes qui font toutes maintenant intégralement partie du peuple de Dieu. Et ce n'est pas le baptême d'eau qui nous fait entrer dans ce peuple, comme cela est suggéré par le dessin qui se trouve sur votre fascicule, mais c'est le baptême de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Et c'est d'ailleurs cela dont il est question dans le verset qui se trouve juste sous le dessin. Donc, le dessin prête à confusion, mais lui, le verset, eh bien, 1 Corinthiens 6,11 nous dit « Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est cette réception de l'Esprit de Dieu qui nous fait entrer dans la famille de Dieu, qui fait que nos péchés sont pardonnés. L'Église, ce n'est pas seulement un peuple, l'Église, c'est aussi une famille. Et pas une famille simplement humaine. L'Église, c'est quoi ? C'est la famille de Dieu. Une famille dont Dieu est le Père. Romains 8, 15 à 17 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chaque membre de l'Église a personnellement été adopté par Dieu et a été personnellement reconnu par lui comme son enfant bien-aimé. Il n'y a pas d'enfant mal-aimé dans l'Église. Par le biais de l'Église, Dieu nous donne également des frères et des sœurs et il nous met en relation avec eux. Et à moins que ce soit un choix personnel, nous ne serons plus jamais seuls. Parce que nous avons le même esprit, la même origine spirituelle, le même avenir éternel et le même amour pour Dieu. Nous avons avec nos frères et nos sœurs des liens si puissants qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que comme venant de Dieu. C'est ça qui est incroyable dans une église. C'est que des personnes si différentes les unes des autres peuvent s'aimer et vivre ensemble malgré leur imperfection. Parce que l'Église, ce n'est pas un club réservé à des personnes parfaites. Quelqu'un disait cela un jour, il disait « Mais si un jour je trouve une Église parfaite, je n'y mettrai pas les pieds. » Et pourquoi disait-il cela ? Il disait « Parce que le jour où moi j'y mettrai les pieds, cette Église ne sera plus parfaite. » Eh bien, l'Église, c'est une famille composée de personnes imparfaites, mais qui aiment Dieu, qui aiment les autres, et qui font le choix d'avancer ensemble, malgré tout, en comptant sur la grâce du Seigneur. Alors, tout n'est pas rose dans une Église. D'ailleurs, Jésus, en Jean 13, 34 et 35, a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Alors, si Jésus a fait de l'amour entre frères et sœurs un commandement, cela montre qu'aimer n'est pas toujours facile. Et ça demande qu'on y travaille, ça demande qu'on le veuille. Aimer est un choix. Mais Jésus poursuit en disant, au verset 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment savoir si une église est composée de disciples de Jésus? C'est très simple. Si jamais au sein de cette église, il y a de l'amour entre frères et sœurs. Moi, depuis ma conversion, j'ai déménagé plusieurs fois et j'étais membre de 4 églises locales différentes. Et à chaque fois, j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli, les bras ouverts, qui m'a aimé malgré mes imperfections, et qui m'a aidé à tourner les regards vers mon Père Céleste. Et je sais, et ça c'est extrêmement réconfortant, je sais que quel que soit l'endroit où je peux aller dans le monde, si jamais il y a une église de personnes qui appartiennent au Seigneur, eh bien je serai accueilli et aimé dans cette église comme un frère, quel que soit l'endroit où je vais. Et ce qui a été vrai pour moi peut également être vrai pour vous. Le parcours Alpha, c'est une découverte de la foi chrétienne. Et en venant ici, vous avez peut-être appris à découvrir quelques personnes qui composent cette église locale. Mais là, le parcours, lui, il est bientôt terminé. Eh bien, sachez que si jamais votre désir est de continuer à mieux connaître Dieu, ou si votre désir est de vivre quelque chose de plus avec Dieu, eh bien, cette église et les personnes qui la composent, eh bien, vous accueillera avec joie. Tel que vous êtes, là où vous en êtes. Ça, c'est notre engagement, mais c'est aussi le reflet de ce que nous vivons avec Dieu. Comme Dieu nous a accueillis, nous accueillons tous ceux que Dieu envoie. Parce que ce n'est pas notre Église, c'est son Église. L'Église est une famille, mais l'Église est également le corps de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le corps de Christ? 1 Corinthiens 12, 27 nous dit ceci. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Un corps est composé de plusieurs organes, de plusieurs membres. Eh bien, c'est la même chose avec l'Église. L'Église est composée de personnes très différentes, les unes des autres, et heureusement. Et chacune de ces personnes est importante. Et chacune de ces personnes est appelée à jouer un rôle qui lui est propre au sein de l'Église pour la bonne santé et la croissance de l'Église. En rejoignant une Église locale, nous trouvons notre place au sein du corps de Christ. Et le but de l'Église, c'est d'aider chacun de ses membres à grandir à la ressemblance de Jésus. Et comment cela est-il possible ? Parce que chaque membre, à sa manière, eh bien, contribue à aider les autres à grandir. La Bible nous dit que celui qui est à la tête de l'Église, c'est Christ. C'est lui qui est à la tête et l'Église est son corps. Éphésiens 4, 16, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Un chrétien isolé aura du mal à grandir spirituellement. Moi, quand je suis tout seul, il n'y a aucun problème. Je suis déjà un chrétien parfait. C'est quand je fréquente les autres que les autres m'aident à grandir et à développer en moi le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la compassion, la douceur, la maîtrise de soi. Des chrétiens ensemble pourront mutuellement se compléter et s'aider à grandir. C'est ça qui fait la richesse et la beauté de l'Église, c'est la diversité de ses membres. Et comme chacun des membres est relié à la tête, à Christ, eh bien Jésus peut réussir à coordonner toute cette diversité dans un ensemble cohérent, afin que chacun puisse grandir lui-même, mais aussi aider les autres à grandir. Vous savez, des fois, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens et que nous ne servons à rien, nous ne savons rien faire, on a l'impression qu'on n'a rien à apporter aux autres. Eh bien ça, c'est un mensonge que Satan aimerait nous faire croire afin de nous isoler des autres pour nous empêcher de grandir. Parce qu'au sein d'une église, nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. Parce que tous, nous avons une expérience de la vie qui nous est propre. Nous avons connu bien des choses bonnes comme moins bonnes. Tous, Dieu nous a touchés d'une certaine manière. Tous, nous avons des capacités, des dons particuliers. Et tous, nous avons reçu un cœur capable d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Nous avons tous des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains pour servir. Eh bien, lorsque Dieu met tout ça ensemble, il permet à l'ensemble de grandir, à nous de trouver notre place et à l'ensemble de grandir. Lorsque Dieu touche notre cœur et nous appelle à venir à lui, il nous incorpore à son corps, il nous prépare une place au sein de l'église locale afin que nous grandissions, mais aussi que nous aidions les autres membres à grandir avec ce que nous sommes. L'église est également appelée un temple saint. Alors, dans la Bible, le temple, c'est l'endroit où Dieu avait choisi de manifester particulièrement sa présence et sa gloire. Dieu est partout, partout dans l'univers. Mais dans ce lieu particulier qui était le temple, Dieu avait choisi de rendre sa présence visible et de faire connaître sa puissance. Eh bien, l'église, c'est le temple de Dieu, un endroit saint, le lieu où Dieu manifeste sa présence et sa puissance. Mais l'église dont il est question, ce n'est ni un bâtiment, ni une institution, mais c'est ce en qui l'Esprit de Dieu habite. 1 Corinthiens 3,16 nous dit cela, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'église est un temple saint parce que l'Esprit Saint y est présent et vivant dans chacun de ses membres. Éphésiens 2, 19 à 22. Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Dieu est présent partout, mais à quel endroit Dieu manifeste-t-il particulièrement sa présence? Au sein de son Église. Alors, n'importe qui peut écrire « Église » sur un bâtiment, mais ça ne signifie pas forcément que Dieu est présent dans ce bâtiment. Si une anecdote qui m'est arrivée, j'étais tout jeune converti et puis j'avais cette soif de mieux connaître Dieu. Et puis dans l'église où j'habite, dans la ville où je venais en vacances, enfin chez mes parents, il y avait une église dans laquelle j'allais le matin, puis ça me suffisait pas. Et puis j'avais vu qu'il y avait écrit église sur un bâtiment un peu plus loin et il y avait un rassemblement le dimanche après-midi. Et je dis ben je veux aussi y aller là-bas. Et puis je suis entré. Et assez rapidement, je me suis trouvé mal à l'aise dans ce lieu, parce que je ne percevais ni la présence de Dieu, ni la gloire de Dieu dans tout ce que j'entendais. C'est comme si l'Esprit de Dieu qui était en moi me disait « mais il y a quelque chose qui ne colle pas ». Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça. Je suis parti pendant la célébration. Et ce qui est très curieux, c'est que je ne connaissais rien de cette église. Mais par la suite, donc je me suis renseigné, j'ai appris qu'en fait cette église était une secte. Une secte qui avait la main mise sur les gens, qui avait une conception très particulière, une lecture très particulière de la Bible. Un endroit très autoritaire et destructeur pour les gens. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit église sur un bâtiment que forcément il s'agit d'une église telle que Dieu la conçoit. Une véritable église doit manifester la présence et la gloire de Dieu en son sein. Malheureusement, pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas présent dans l'Église. C'est un peu comme l'histoire du petit Benjamin. Alors Benjamin, c'était un petit garçon qui faisait beaucoup de bêtises. Et puis, sa mère, qui ne savait plus trop quoi faire, elle l'emmène voir une des enseignantes des enfants, qui était réputée pour sa sévérité. Et puis, donc celle-ci, elle l'a fait entrer, et puis elle l'a fait asseoir, et elle lui pose cette question. Mais Benjamin, où est Dieu ? Alors là, le petit garçon, il devient nerveux, puis sa mère se dit, mais c'est excellent, elle sait comment faire. Il ne répond rien, alors la dame lui demande à nouveau, Benjamin, où est Dieu ? Et puis là, le garçon est pétrifié. Une troisième fois, Benjamin, où est Dieu ? Et là, le garçon terrorisé part en courant et rentre chez lui. Et puis là, il se jette dans les bras de son père et dit, papa, papa, à l'église, ils ont perdu Dieu. Et en plus, ils pensent que c'est moi qui ai fait le coup. Une église n'est jamais parfaite. Mais chacun des membres qui composent cette église doit veiller à manifester la présence et la gloire de Dieu dans sa propre vie et au milieu de ses frères et sœurs. Et plus les membres de cette église seront remplis de l'Esprit de Dieu, plus cette église locale manifestera la présence et la gloire de Dieu. La Bible compare également l'église à une épouse aimée d'une manière extraordinaire par son époux. Nous savons que l'église, ce n'est ni un bâtiment ni une institution, mais l'église, c'est tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Eh bien, voilà comment Dieu nous aime. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est parce que nous sommes aimés de Dieu, en Christ, et parce qu'il a donné sa propre vie pour nous, qu'il nous a incorporés à son peuple, à sa famille, à son corps. Il a fait de nous son temple, et comment nous voit-il maintenant ? Comme étant sans défaut. C'est pas vrai, on est plein de défauts. Mais dans son amour, par les yeux de l'amour, Dieu voit son Église, ceux qui lui appartiennent, comme étant sans défaut. L'Église est entièrement composée de pécheurs. 100% des gens qui sont membres d'une Église sont pécheurs. Mais des pécheurs qui ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés et qui ont reçu de Dieu la grâce, le pardon pour leurs péchés. L'Église est entièrement composée de personnes imparfaites, mais que Dieu voit maintenant comme parfaites, parce qu'il les voit au travers de Jésus-Christ. L'Église, telle que Dieu la conçoit, l'Église est formée par tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Et si jamais vous avez placé votre foi en Jésus, vous faites déjà partie de l'Église universelle de Dieu. Mais c'est au sein d'une Église locale que vous pourrez davantage grandir à la ressemblance de Jésus et aussi aider d'autres chrétiens à grandir à leur tour. C'est au sein de l'Église locale que vous trouverez non seulement des amis, mais aussi une famille. Et c'est également en rejoignant localement le corps de Christ que vous trouverez votre place au sein du corps de Dieu, de Christ, et que vous occuperez ainsi la place que Dieu vous a préparée d'avance. Alors vous voyez là, je fais vraiment de la pub pour l'Église, mais pas seulement notre Église, parce que toutes les églises dans ce monde, il y a des milliers, des millions d'églises dans ce monde qui appartiennent à Dieu, qui sont la véritable Église de Dieu. Il y en a des centaines de milliers, des millions peut-être, rien qu'à Villefranche, il y en a plusieurs. Peu importe l'Église, je dirais. Peu importe l'Église à partir du moment où elle reflète la présence et la gloire de Dieu. Si jamais vous avez déjà fait un pas de foi, rejoignez une de ces églises. Alors bien sûr, nous, on vous accueille déjà avec joie, mais on ne va pas changer, on continuera à le faire. Mais rejoignez une église qui reflète la gloire et la présence de Dieu. Participez aux célébrations qu'il y a en règle générale le dimanche matin, ou bien aussi aux rencontres de semaine qui sont organisées. Et n'ayez pas peur de cela. Une église doit être un lieu ouvert. Vous y allez, vous regardez dans la Bible, il nous est dit, goûtez et voyez que Dieu est bon. Ben, c'est un peu la même chose avec une église. On entre, et si on se dit, mais si on y est mal à l'aise, eh ben, on s'en va. Si vous n'avez pas l'impression que Dieu est au centre, au milieu de cette église, allez ailleurs. Depuis le début du parcours, vous avez vécu des choses avec Dieu. Et ça, je suis sûr, parce que sinon, vous ne seriez pas là. Vous avez probablement plein de choses mieux que de venir ici le soir. Chaque soir, alors qu'il fait même maintenant si froid. Eh bien, ce que Satan aimerait, c'est faire retomber ce que vous avez déjà vécu, faire retomber cela, vous faire oublier ce que vous avez vécu depuis 2 mois. Satan aimerait bien que les choses redeviennent comme avant. Le Seigneur, lui, au contraire, aimerait continuer à prendre soin de vous. Il aimerait consolider votre foi afin qu'elle devienne inébranlable et qu'elle ne soit plus sujet aux circonstances de la vie. Et comment Dieu veut faire-t-il cela? Eh bien, en vous aidant à rejoindre une famille, un peuple, une église locale. C'est comme ça que Dieu nous fait grandir. Mais ça, c'est un choix qui appartient à chacun de vous.